belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de la partager avec une femme qui est une taquineuse de mots. Elle a attrapé le virus de l'écriture et celui de la prise de parole. Bonjour Isabelle Guttitelli.
Bonjour Nathalie.
Isabelle, est-ce que vous vous rappelez de notre rencontre à toutes les deux ?
C'était un certain mois de juin, dans la cour de la Gerbe.
Exactement.
Lors de la guinguette artistique.
Exactement. Et en plus, ça me fait plaisir que vous en souveniez, parce que c'est vrai qu'on... Enfin, moi, je vous cherchais depuis un petit bout de temps. Parce qu'on était amis, voilà. On était dans nos 4000 amis sur Facebook, etc.
Voilà.
Etc. On se suivait l'une et l'autre de loin, moi, beaucoup. Et puis voilà, quand je vous ai rencontré, c'est « Ah, chouette, enfin !» Je te rencontre.
Ça y est.
Ça y est. Alors, pour permettre à nos auditeurs aussi de vivre une belle rencontre avec vous, je vous propose de commencer par un petit portrait. Donc, vous êtes coach en écriture, animatrice d'ateliers d'écriture et formatrice en communication. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette voie, Isabelle ?
Je crois que depuis que je sais lire, j'écris. J'aime écrire, j'ai toujours aimé écrire. Et puis, j'ai été quelqu'un de très raisonnable, j'ai fait un travail sérieux comme tout le monde, un travail salarié, et je me suis engagée dans les métiers de la communication, parce qu'il y a de l'écrit dedans. Pas que pour ça, je crois que j'ai aussi certaines qualités de communication qui pouvaient s'épanouir là-dedans.
Et de créativité, ouais.
Mais j'ai, du coup, pendant un bout de temps, j'ai laissé de côté complètement l'écriture. Mais en même temps, l'écriture me poursuivait et il fallait que j'y revienne, et voilà. Et puis, ma vie professionnelle de salarié s'est terminée de manière assez désagréable, avec un burn-out, avec une grosse remise en question. Une fois que je me suis remise cet énorme coup dur physique et mental. Et quand je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? C'est quoi ? Et là, forcément, l'écriture m'a rattrapée.
Et pour ça, parce que vous êtes titulaire d'un module d'animation, c'est-à-dire que, à la fac, à l'université, alors, vous êtes titulaire d'un module d'animation d'atelier d'écriture à l'université Paul Valéry. Moi, je ne savais même pas que ça existait, Isabelle, ce module.
Oui, alors, moi, j'ai juste fait le module, qui est plus ou moins, c'est l'année d'introduction. Mm-hmm. Ensuite, il y a un DU. Il y a un DU d'animateur d'atelier d'écriture. Mais comme pour faire le DU, il faut être déjà animateur, moi, depuis que je suis animatrice d'atelier d'écriture, je ne m'arrête pas. et donc, le DU, je ne l'ai pas fait parce que je suis trop prise par tout ce que je fais.
C'était important quand même de passer quelque part par pas une validation des acquis, mais un peu d'acquis très formel à la fac.
C'est surtout qu'au moment où je me suis dit, l'écriture, ok, et puis accompagner des gens dans l'écriture, parce que moi-même, j'étais quelqu'un qui écrivait, mais qui n'avait aucune confiance dans ce que j'écrivais. C'est pour ça que je me suis dit que je pouvais accompagner des gens là-dedans, parce que je connais le sujet. Je me suis dit, qui va venir dans mes ateliers ? Pourquoi on viendrait à mes ateliers ? Moi, j'avais déjà participé à un atelier, mais je me suis dit, je ne sais pas. Mm-hmm. Et ce qui est très intéressant, la chose la plus importante que j'ai apprise dans ce module, c'est qu'on n'apprend pas à animer des ateliers d'écriture autrement qu'en en animant. Mmh. Mais j'avais ce problème de légitimité. Voilà, au départ, c'était pour ça. Et ceci dit, ça m'a appris aussi des choses. Mais le fait simplement que la légitimité, elle venait en faisant.
Mais c'est vrai qu'on est tout un peu... Enfin, moi, je ne sais pas, je suis devenue intervieweuse en interviewant. Hein, je veux dire, je n'ai pas fait de formation. Mais c'est vrai qu'on garde toujours... Alors, peut-être pas vous, parce que on va y revenir. Mais ça fait 10 ans maintenant que vous faites les ateliers.
Oui, voilà. Ça va faire 10 ans en mars. Ouais.
Donc, je pense qu'au bout de 10 ans, on s'apaise. Mais cette espèce de syndrome de l'imposteur, de se dire, mais est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai la compétence ? Est-ce que je sais ? Oui. Et en définitive, il n'y a que l'acquis et ces 10 ans qui parlent de vous. Et puis, la fréquentation, parce que vous êtes un atelier d'écriture qui marche pas mal, quoi.
Oui,
enfin, même bien,
oui,
on peut dire.
Hein,
donc,
tout à fait.
Donc, depuis 2014, vous faites ce choix d'animer ces ateliers d'écriture. Oui. Et vous avez été aussi journaliste ?
Oui, j'ai été journaliste web au début d'Internet pour un site Internet qui a disparu maintenant et qui parlait des sorties. Donc il y en avait plusieurs dans différentes villes et moi je m'occupais de la ville de Montpellier, donc tout ce qui était théâtre, cinéma, resto, expo, etc.
Et vous continuez à quand même faire des consultations de communication si une entreprise a besoin de vous, vous pouvez.
Oui. Alors je le fais, c'est vraiment en marge, moi ma préférence c'est vraiment tout ce qui est créatif, littéraire. littérature, mais justement, quand des entreprises me contactent, c'est qu'elles ont besoin aussi de créativité dans leur communication. Donc là, je commence avec une entreprise qui fait de la cybersécurité. Depuis maintenant 2-3 ans, j'accompagne aussi une entreprise d'expertise comptable. Alors là, plus pour ce qui est de la communication interne.
C'est exactement la question que j'allais vous poser, Isabelle. Vous faites aussi communication interne et externe ?
Oui. J'ai 15 ans d'expérience de communication en entreprise, donc communication interne et externe. J'ai commencé dans l'interne et jusqu'à devenir responsable de com dans une entreprise et où je m'occupais de toute la com. Mais comme moi, ce qui m'intéresse est dans la créativité, vraiment ce qui me saisit, c'est le rapport humain. Et là, avec cette entreprise d'expertise comptable, j'anime des ateliers chez eux. Alors, les ateliers d'écriture pure, ça ne fonctionne pas. C'est un public qui n'y est pas sensible. En revanche, c'est un public qui a plein de questionnements sur la confiance en soi, comment répondre à un client mécontent, comment faire face à ses propres émotions. Et finalement, ben là, je suis en train d'élargir mon offre à ce conseil en relations humaines au sein de l'entreprise, faire la paix avec ses propres émotions. Alors bon, on fait ça en groupe, je ne suis pas psy, mais j'apporte cette sensibilité-là.
Vous sentez dans le monde entrepreneurial qu'il y a des marques qui bougent un petit peu, qui sont un petit peu plus à cette écoute ?
Alors, malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand ce chef d'entreprise m'a contacté, moi j'ai été ravie parce que je trouve que c'est une préoccupation énorme. Et là, j'ai retrouvé moi mes souvenirs de salariés je faisais partie aussi du CE, donc je faisais face aussi à mes collègues avec toutes leurs difficultés professionnelles. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui ont ce souci-là de l'humain. Mais il y en a. Et franchement, cela, ça fait plaisir de leur apporter.
Et de les accompagner.
Et de faire en sorte que leurs salariés puissent se sentir mieux. C'est un chemin qui est long. Moi, j'apporte juste quelques graines et puis un peu d'engrais et un peu d'eau pour que ça pousse. Et ça continue de pousser quand je ne suis pas là.
Voilà. Et puis, alors, quelque chose qui est intéressant aussi, que je ne savais pas que vous faisiez, Isabelle, c'est que vous proposez aussi des cours de remise à niveau scolaire et de création littéraire pour les adultes handicapés mentaux. Alors, Vous intervenez dans des structures ?
Oui, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je suis intervenue en ESAT sur Montpellier et auprès de personnes qui ont une déficience mentale et en même temps qui sont quand même déjà dans le monde du travail, mais dans un monde du travail adapté et qui ont besoin, là aussi on en revient toujours à la même chose, d'avoir confiance en eux. Et pour avoir confiance en eux, c'est bien qu'ils sachent s'exprimer, qu'ils sachent compter. Et c'était une expérience très riche pour moi parce que ça m'a permis de voir que quand j'explique quelque chose, selon les dispositions qu'on a, les facultés pour les comprendre ne sont pas les mêmes. Et donc ça m'a obligé à développer d'autres façons d'expliquer et de prendre un problème sous plusieurs angles différents jusqu'à ce que l'information passe et aussi faire en sorte qu'il y ait un peu de création littéraire, alors totalement autre que dans mes ateliers que j'anime, mais quand même de la création, c'est-à-dire quelque chose qui vienne des participants et qui donne naissance à un produit. On avait imprimé notre petit livret avec l'histoire qu'ils avaient écrite, qui était la suite d'une scène de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, que je leur avais lu et je leur avais proposé d'imaginer la suite. Et chacun à son tour ajoutait une pierre à l'édifice jusqu'à ce que ça forme un ensemble. Et puis après, j'en profitais pour glisser 2-3 règles de français, comment on dit telle chose ou comment on fait pour se faire comprendre. C'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait, les règles d'orthographe et de grammaire, elles sont là pour se faire comprendre. Et voilà, on avait abouti à ce livret.
C'est un grand bouquet, quoi, Isabelle. Vous êtes un bouquet avec plein de fleurs différentes.
Oui, mais je crois que j'ai toujours eu du mal à choisir. Quand il y a des trucs qui me plaisent, où je vois que je peux apporter quelque chose et que je peux découvrir des choses, parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai besoin de me nourrir, voilà, j'y vais.
Il y a aussi une chose qui m'a interpellée, c'est les ateliers à la rencontre de soi. Parce que vous parlez de bibliothérapie, je ne sais pas si vous le faites encore. Alors le terme de bibliothérapie, la première qui m'en a parlé, c'est Détambelle, c'est Régine Détambelle.
Et c'est auprès d'elle que j'ai été formée.
D'accord.
Voilà. Oui. Alors, ce sont des ateliers que je ne propose plus parce que le concept était tellement flou que les gens avaient du mal à venir et moi, j'avais peut-être du mal à expliquer ce qui s'est passé.
Et vous pourriez revenir dessus, par exemple, dans 5 ans, avec une autre approche
Tout à fait. Et en fait, l'air de rien, je pense que j'emprunte plein de choses que j'ai faites dans ces ateliers à la rencontre de soi avec de la bibliothérapie et bien que je le diffuse au compte-gouttes dans mes ateliers d'écriture ou dans mes ateliers de confiance en soi et de relations interpersonnelles en entreprise. Ça infuse, tout se rejoint, hein.
C'est fou.
Voilà.
Mais un jour, il faudra quand même que vous m'expliquiez bien ce que c'est que la bibliothérapie, parce que j'ai quand même un petit peu du mal à comprendre.
Ouais, ben oui, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le voir aussi.
Et avant de marquer notre première pause musicale, que vous avez choisie pour nous, d'ailleurs, Isabelle Guttichelli, évidemment, vous êtes passionnée par le langage, mais il faut aussi parler de vous. C'est-à-dire que vous avez écrit.
Oui.
Vous avez écrit Alain Delon, jeune, qui est un roman.
Oui.
Il y a combien de temps à peu près ?
Alain Delon jeune, je crois qu'il est sorti en 2016.
D'accord.
Et nous l'avons écrit à quatre mains. Hein, c'est un livre écrit à deux, mon mari et moi.
D'accord.
Voilà.
Et puis des nouvelles.
Oui, un recueil de nouvelles.
Entièrement de vous ?
Oui, celui-là entièrement de moi, qui s'appelle Le Buffet.
Et je voulais justement vous demander, avant d'écouter Rodolphe Burger, dont vous allez nous parler, parce que là, vous m'avez quand même bluffé encore avec ce choix musical. Je suis très partagée sur la nouvelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écrivent des nouvelles. Est-ce que, parce que la nouvelle se suffit en elle-même, c'est une question de vraiment de quelqu'un qui venait de la littérature, hein, que je pense. Ou, ça suffit, alors évidemment, Borges, ça suffit en lui-même. Ou c'est parce que des gens n'ont pas assez tiré le fil pour aller jusqu'au roman. Vous en pensez quoi ?
Alors, normalement, une nouvelle, c'est une nouvelle et ça n'est pas destiné à devenir un roman. Et normalement, un roman, c'est pas destiné à être une nouvelle. Dans mon approche de quand j'accompagne des gens à l'écriture, il y a des gens qui démarrent et puis qui ont absolument pas l'habitude d'écrire, qui disent « Oui, je vais écrire un roman en 3 mois. » Ok, on va peut-être commencer plus raisonnablement par avoir une approche de la narration et par écrire d'abord une nouvelle pour voir comment se structure une narration. Et puis après, Mais ceci dit, moi, dans mon écriture, notamment la nouvelle Le Buffet, qui est vraiment la nouvelle principale du recueil, il y en a qui m'ont dit « Oh, mais moi, j'aurais voulu que ça continue, etc. » Je dis « Mais non, mais pour moi, c'est une histoire qui est bouclée sur ce temps-là. » Mais le roman que je suis en train d'écrire actuellement, au départ, je pensais que ça serait une nouvelle. Et j'ai commencé à l'écrire en tant que nouvelle. Et puis, en tant que nouvelle, il y a des trucs qui m'ont sauté dessus, qui m'ont dit « Bah oui, mais après, il y a ça, et puis il y a ça. » Et comment je fais pour le contenir là-dedans ? Ça ne tenait pas. Donc là, c'est le roman qui m'a dit, qui a tapé à la porte, qui a dit « Oh, là, oui, tu déconnes, là. Vas-y, retrousse-toi les manches et hop. »
Et dans les gens qui viennent vous voir et qui suivent ces ateliers d'écriture, est-ce qu'il y a des gens qui prennent ça, en définitive, comme déjà un plaisir, un aboutissement personnel ? Ou est-ce qu'il y a une recherche de notoriété et que l'idée de se faire éditer, d'être connu, c'est important ?
Alors, il y a de tout. En atelier d'écriture, en écriture collective, ce sont plutôt des gens qui cherchent, entre guillemets, à s'épanouir. C'est un terme très vague. Plein de choses différentes selon les gens. Mais à prendre plaisir à écrire en groupe, à écouter les textes des autres, à avoir des réactions, etc. Ceux qui ont envie d'être édités, c'est plutôt ceux que j'accompagne en individuel.
D'accord.
Et ceux-là, ils sont pas tous pareils. Il y en a qui me disent non mais c'est plutôt pour mon entourage. Oui, puis il y en a qui me disent jamais je n'oserais prétendre à envisager l'idée un jour de me faire publier. Mais, et pourquoi pas? Et tu peux avoir cette ambition, cette envie. Après, la réalité est une autre chose, mais l'envie, elle est là et c'est bien de connaître cette envie et de la respecter pour avancer avec.
C'est important que tout ça soit dit, parce que c'est vrai que moi j'ai été au début assez sceptique sur les ateliers d'écriture. Je me dis, quand on a envie d'écrire, on écrit quoi, voilà. Et en définitive, il y a tout ça, c'est oui, par exemple, c'est écrits patrimoniaux, testimoniaux, c'est-à-dire le fait de laisser à ses enfants, à ceux qu'on aime, une histoire de sa vie. Bon voilà, après on se fait plaisir, on l'édite à 50 exemplaires en auto-édition, et voilà, c'est bien. Et
maintenant c'est possible, donc c'est bien d'en profiter.
Alors Isabelle, quand je vous ai demandé de nous donner une page musicale, vous nous avez envoyé Rodolphe Burger, que je ne connais pas, Bleu Bach.
On dit Rodolphe Burger, je crois, parce qu'il est français, alsacien.
Oui, j'ai vu. Alors peut-être qu'on ne l'écoutera pas tout le temps, vous ne nous en voudrez pas, parce que bon, la chanson dure 4 minutes 25, mais c'est un outil... non, c'est parce que j'ai plein de questions à vous poser, c'est pas vous. c'est un outil... C'est un artiste très particulier quand même, ce Rodolphe.
Alors, Rodolphe Burger, c'est un artiste assez peu connu et en même temps qui a travaillé avec plein de gens connus. Il a travaillé avec Alain Bachung, notamment.
Et qui a un univers très particulier.
Voilà, avec Rachid Taha aussi. Et qui a un univers très particulier que j'aime beaucoup parce que, alors déjà, sa voix, moi, elle me transporte. Il a une voix de violoncelle contrebasse qui me laisse baba, que je pourrais écouter comme ça en boucle. C'est un excellent musicien, un super guitariste et qui a beaucoup d'ambiance. Alors, il jouait, il était dans un groupe, il a fait partie et il fait partie de plusieurs groupes. Son groupe le plus connu, c'est Katonoma. Et donc, il fait partie de la scène rock française, un peu underground, mais pas tant que ça. Mais voilà, et il est très fort dans les collaborations. Et le titre là que j'ai choisi, Bleu Bac, je l'aime énormément parce que, bah, vous allez entendre le texte, il y a un côté absurde qui joue sur les sonorités des mots. Et moi, celle-là, je peux l'écouter en boucle et puis regarder le clip aussi où il y a Rodolphe Burger qui danse. Je le trouve merveilleux.
Oui, j'ai vu avec une danseuse. Ouais. On va écouter, hein, c'est ce qui attise l'intérêt de notre taquineuse de mots. On écoute Rodolphe Burger.
Sur l'étal bleu Bac, j'ai vu des chapons, des carapaces d'hameçon s'accrocher. Crête, roc, rouge de Chine, corps de dragon, crêtes épiques. Sur l'étal bleu Bac, j'ai vu le regard de plomb, du poulpe polyglotte, glouton. Mes yeux vus, des oursins virulents, stridulés en tempo. Sur leurs pointes d'étoiles, en tirant la langue, j'ai vu les rougets du rocher tirer à quatre épingles raides et alertes. Je les ai vus simuler l'indifférence et décamper en cadence. J'ai vu les lapins de garenne singer le saute-mouton dents devant, en riant. J'ai vu les pélamites étolidées tout en crôle chromée, avalées crues par les ostréiculteurs joueurs de banjo de l'étang de taux. À leur cou, j'ai vu les moules en grappe applaudir en rythme flamenco. Et vous? Je vous vois, de mes yeux vois. Fermez les yeux, deux fois. Je vous ai vu, de mes yeux vus, défaillir au ralenti. J'ai vu des grenades du jour. Pour l'amour, j'ai vu le haricot vert immature se manger cru dans un hammam enfoui. J'ai vu le jambon du cochon qui a mangé les glands dans la bibliothèque du Vatican. J'ai vu les cèpes s'accoupler en super 8 dans l'humus du gros chêne de la forêt de Haguenau. J'ai vu le chocolat tenter de me convaincre d'arrêter le homard de la zone avec ses œufs noirs et ses pinces se transformer en une flûte de pan. Et vous? Je vous vois. Mes yeux voient, fermez les yeux, deux fois, je vous ai vu.
Et cette découverte donc de Rodolphe Burger pour Bleu Lac, avec cette voix si particulière, en effet, avec un univers un peu à la Bertrand Belin ou à la Bachung. Hein, voilà,
c'est un copain voix de Bertrand Belin aussi. Ouais.
Bertrand Belin, que je remercie Stéphane, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le programmateur de cette émis de cette radio. Et je remercie aussi Yann qui nous accompagne aujourd'hui à la technique.
Merci.
Et Stéphane, c'est lui qui m'avait fait découvrir Bertrand Belin.
Okay.
Voilà. On va parler maintenant de ce qui vous porte, Isabelle. On a parlé de vous. Et une phrase que j'ai vue qui me plaît bien, c'est écrire, écrire encore, écrire toujours. Oui, mais pourquoi ? Alors oui, pourquoi Isabelle ?
La réponse est tellement différente d'une personne à l'autre. Mais écrire pour dire. Je crois que j'ai lu, j'ai lu une citation il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est de Colette. Dire encore et toujours. Pour moi, c'est un besoin d'expression, simplement. C'est un besoin de qu'on sache que je suis là, qu'on ne m'oublie pas. Et puis, dans les personnes que je reçois, notamment en accompagnement individuel, il y a quand même pas mal de témoignages, de choses dures. Et certaines personnes qui sont enfermées dans le non-dit et qui viennent s'en libérer. C'est très difficile d'ailleurs de les faire écrire.
D'ailleurs, pour une femme qui aime tellement l'écriture, est-ce que ça vous vampirise pas toutes ces émotions des autres pour que vous n'ayez pas le temps d'écrire plus vous ? Vous aimeriez avoir plus le temps pour vous, pour écrire ?
Oui, j'aimerais avoir plus le temps pour moi, pour écrire. En revanche, les écrits des autres et les personnes que je reçois ne me vampirisent. Enfin, j'ai pas la sensation qu'elles
de
me vampirisent. C'est mon travail en général qui me vampirise parce que j'ai tendance quand je suis dans un truc à le faire à fond. Et donc, pour écrire, j'ai sacralisé des espaces-temps dans mon programme le matin, en dehors du jeudi matin où j'anime un atelier d'écriture. Mais le matin, je ne suis là pour personne.
D'accord.
Mon téléphone est sur silencieux. J'écris. Il n'y a pas le choix.
Parce que vous faites aussi de l'accompagnement, on va en parler, mais on en parlera un petit peu quand on va descendre votre programme. Mais avant, je voudrais aussi vous arrêter sur le fait que vous disiez les livres sont magiques. Pourquoi vous avez envie de dire ça sur les livres ?
Mais parce que quand on ouvre un livre, et là ça rejoint peut-être justement l'histoire de la bibliothérapie, quand on ouvre un livre, on est assis là, dans notre salon ou dans notre lit ou peu importe, mais il y a des choses très concrètes autour de nous. Et en ouvrant un livre, on peut se retrouver projeté ailleurs, à un autre moment, avec d'autres personnes dans une autre situation. Et je trouve ça génial. Et en même temps, c'est un truc vraiment basique qui existe depuis très longtemps.
On peut être dans le métro et en même temps être en 1830 avec
Jeanne. Exactement.
Ouais, d'accord.
Exactement. Mmh. Et c'est un super pouvoir d'arriver à embarquer des gens avec un truc qu'on a écrit en plus il y a longtemps. Il y a des gens des fois qui me disent « Oh ben là, je suis en plein dans ton bouquin. Oh ben là, il est en Amérique du Sud et tout. Je suis en Amérique du Sud. » Je dis « Oui, pourtant, tu es en face de moi. » Mais voilà, c'est ce pouvoir-là et c'est pour moi un super pouvoir.
Mais moi, quand je lis beaucoup, parce que je lis beaucoup, parce que hormis une belle rencontre, j'anime aussi l'émission littéraire, c'est vrai que quand je sors du livre, des fois, pendant une heure, je ne parle pas à mon compagnon. Quoi, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai envie de rester encore avec les héros. Et puis, vous savez, on est dans son lit ou sur son canapé, puis j'arrive, je finis le chapitre. Menteuse, t'as déjà commencé celui d'après.
Exactement.
Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que vous dites, et vous le dites très bien. Pour cultiver justement cette écriture et cette magie de l'écriture et de la lecture, vous donnez quelques conseils dans votre newsletter d'ailleurs, parce que vous avez une newsletter qui arrive tous les mois. Prenez une minute chaque jour pour ne rien faire. Regardez, écoutez, sentez ce qui vous entoure, où que vous soyez, prêtez attention à vos sensations. Vous pensez aussi que pour écrire, il faut emmagasiner un petit peu des émotions, des
moments. On n'écrit qu'avec ce qu'on connaît. On a beau inventer, quand on invente toujours à partir de choses qu'on connaît. On fait des combinaisons qui sont nouvelles. Et pour prendre conscience du fait qu'on connaît des choses, à un moment, il faut faire une pause. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant, on le voit bien, quand quelqu'un de très jeune cherche à écrire, on sent dans son écriture cette verdeur, ce côté très jeune, qui a déjà une expérience, mais qui n'est pas du tout la même que l'expérience d'une personne de 80 ans. Et donc, il faut vivre pour écrire, et en même temps, il faut des fois prendre un temps de pause pour se rendre compte de ce qu'on a vécu. Parce que, notamment aujourd'hui, on vit de plus en plus vite. Et le fait de cultiver comme ça le moment de ne rien faire, c'est pas quelque chose qui nous est naturel. Il faut parfois s'y forcer. C'est pour ça que je le conseille, parce qu'on l'oublie.
Puis comme vous l'avez abordé en parlant du burn-out, c'est aussi une façon d'éviter le burn-out, de prendre le temps.
Tout à fait.
Deuxième conseil, vous écrivez sincèrement ce que vous ressentez. La sincérité, c'est important.
Oui, même si on veut masquer certaines choses après, il faut commencer par être sincère. Parce que ça permet aussi de se détendre. Il y a des gens qui, quand ils veulent écrire, se disent « oui, mais je voudrais que ça ressemble à ça, et puis que ça soit comme ci et comme ça, et qu'on comprenne que… » Alors qu'ils n'ont pas encore écrit un mot. Écrivez d'abord.
Oui.
Et pour écrire, le plus simple et le plus facile, c'est d'être sincère. Après, une fois que c'est posé, revenez dessus, éventuellement retravaillez-le pour donner une intention différente. Ou,
une atmosphère, voilà. D'ailleurs, vous le dites très bien. Et dans la même lettre, j'avais dit, allez, je ne le cite pas, mais bon, quand même, je le cite parce que ça me plaît. Si vous écrivez, Cunégonde s'ennuyait ce soir-là. Voilà, c'est simple. Si vous dites, le tic-tac de l'horloge graisseuse donnait à Cunégonde, engourdie par les vapeurs du sempiternel pot au feu du dimanche soir, une irrésistible envie de bâiller. C'est vrai que c'est formidable.
Ben ça, c'est les sensations.
Ouais.
Les sensations...
On comprend bien, en plus.
Voilà. Et ça, les sensations, c'est ça qui fait que l'écriture, c'est magique. Quand on lit un livre, ce qui fait qu'on entre dedans, c'est on entre dedans par les personnages. Et les personnages, s'ils ont des émotions et des sensations, ça va faire écho chez le lecteur qui va sentir le parfum du sempiternel pot-au-feu, qui va voir cette horloge graisseuse et qui, du coup, va y être, simplement. Et donc, le transport, dans le voyage dans le temps et dans l'espace instantané, il se fait grâce aux sensations.
Et vous conseillez aussi de se laisser aller aux associations d'idées. Et associations d'idées qui n'est pas le champ lexical, parce que c'est vrai qu'il y a des fois dans des livres... Pour moi, passer, travailler, il y a des gens qui abusent un peu du champ lexical, je trouve. Voilà, quand il pleut, on va avoir... non, là, c'est des associations d'idées. C'est beaucoup plus subtil que le champ lexical.
Oui, et les associations d'idées, elles ne peuvent se libérer que quand on est dans la détente, d'où je remonte au premier conseil de passer des moments, au moins une minute par jour, à ne rien faire. Parce que quand on a l'esprit détendu, toutes les portes de la créativité s'ouvrent et avec elles, les portes des associations d'idées. Et ça peut être des choses totalement saugrenues, mais l'exemple le plus célèbre, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Il a une Madeleine, il la trempe dans le thé, c'est physique, prosaïque, etc. Et d'un coup, pouf, là, lui aussi, c'est magique, il se retrouve projeté à une autre époque, à un autre moment, et toutes les autres sensations lui viennent avec cette sensation du goût et de la texture en bouche.
On parlait des fois du manque de temps que vous pouvez avoir pour écrire pour vous. La lecture, vous donnez quand même du temps pour lire.
Oui.
Parce que vous citez, dans la phrase là, vous citez Baudelaire, vous citez Proust. Évidemment, pour animer des ateliers comme ça, il faut aussi avoir une culture riche
en lecture. J'ai toujours... j'allais dire beaucoup lu. Je vis avec quelqu'un qui lit encore plus que moi, donc j'ai du mal à dire ça, mais oui, j'ai toujours aimé lire. Donc voilà, j'ai cette culture-là. Mais c'est vrai que, alors, en semaine, normalement, je lis tous les soirs avant de dormir. En semaine, quand je bosse, en ce moment, j'y arrive pas.
Difficile.
En ce moment, j'y arrive pas. Après, ça dépend du livre que je lis aussi.
Et vous avez un auteur ou une autrice de référence ? Quelque chose qui...
Oh, c'est dur, il y en a tellement. Ouais. Mais là, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, justement, à propos des sensations, et puis ça rejoint la question de la nouvelle, c'est le seul roman de Stefan Zweig qui ait été publié, parce que Stefan Zweig, c'est un grand auteur de nouvelles.
Bien sûr.
Alors là, pour le coup, ces nouvelles se tiennent vraiment en tant que nouvelles. Il n'y a pas à dire, c'est des nouvelles et pas autre chose. Il a écrit plusieurs romans, mais il n'y en a qu'un seul qui a été abouti, qui s'appelle « La pitié dangereuse ». Et j'ai été fascinée par ce bouquin parce qu'il est bourré, ça n'est que de la sensation et de l'émotion, et c'est de la narration, il se passe des choses. Et j'ai lu, parce qu'après, ce bouquin, je trouve que c'est un roman de gare merveilleusement bien écrit, c'est-à-dire qu'il a les qualités du roman de gare, du page-turner, on a toujours envie de savoir ce qui se passe après, et en même temps, c'est une écriture... Alors, Stefan Zweig, c'est le début du 20e, mais il écrit comme au 19e. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très bien ciselé, même si c'est une traduction, franchement, elle fonctionne bien. Et rien que par ces sensations-là, on est projeté dedans. Et quand je dis ça, je me dis, mon Dieu, mais c'est ça que j'aimerais pouvoir transmettre.
Ça.
C'est toutes ces circonvolutions intellectuelles, mais qui passent par des émotions et qui se traduisent par des actes. Et en fait, voilà, ce que j'ai lu sur ce roman, il y a quelqu'un qui dit que c'est un roman, mais qu'en fait, c'est une nouvelle de 500 pages.
Oui.
C'est-à-dire que ça a l'aspect complètement concentré, ramassé d'une nouvelle, mais alors sur 500 pages, ce qui fait que on n'a aucune envie que ça s'arrête.
En tout cas, vous nous donnez envie de le lire.
Ah ben ouais, puis j'ai donné envie de le lire à plein de gens en atelier parce que je l'ai utilisé.
Quatrième conseil, vous nous dites de participer à des appels à texte. Et c'est vrai que c'est un conseil que je donne beaucoup.
Oui.
J'ai quelques connaissances autour de moi qui ont réussi à être éditées en répondant à des appels à texte.
Ouais.
Et notamment, et là on va faire le lien, hein, une belle liaison avec le sujet suivant, puisque vous faites un appel à texte avec une collaboration avec Soramps.
Ouais.
Les textes, il faut vite se dépêcher, c'est avant le 30 novembre, je crois.
Oui, vous avez jusqu'au 30 novembre pour nous envoyer vos textes.
Semaine. Vous nous en parlez un petit peu plus, Isabelle.
Oui, alors, les nuits, c'est à l'occasion des Nuits de la Lecture, qui est un événement national organisé par le Centre National du Livre, en collaboration et sur demande du ministère de la Culture. Et tous les ans, avec notre association Les Ateliers Persona, on se saisit de cette opportunité des Nuits de la Lecture pour lancer un appel à texte. On reprend le thème proposé par le Centre National du Livre. Cette année, c'est le corps. Alors, un thème qui fait peur à certains.
Mais c'était la peur l'année dernière.
L'année dernière, c'était la peur. Voilà. Cette année, c'est le corps. Et on lance un appel à texte, 5000 caractères maximum.
Ça fait combien de pages, 5000 caractères?
C'est un peu plus d'une page à 4.
D'accord.
Okay. C'est vraiment le maxi.
Oui, d'accord.
Vous pouvez faire moins, il n'y a aucun souci. Genre libre, alors il y en a qui envoient de la poésie, qui envoient de la narration, qui envoient de l'essai, comme
de
vous
tout,
voulez.
On peut tout faire.
De tout. Simplement, moi, ce que je recommande, c'est ce qui nous plaît à nous, membres du jury, parce que cette année, on est quand même 6 membres du jury, c'est les textes qui sont vraiment personnels, qui nous disent quelque chose que les autres ne nous ont pas dit, ou en tout cas que les autres ne nous ont pas dit de cette façon-là. Et cette année, alors, on est absolument ravis parce qu'on a un
quelques belles découvertes déjà. Oui, avec
alors, c'est surtout. Alors moi, j'ai pas encore commencé à lire les textes. J'attendais qu'on en ait quand même pas mal. Et donc là, je vais
c'est quand la nuit de la lecture, janvier, février?
C'est fin janvier. C'est sur le week-end du 20 janvier. Mmh. Et donc cette année, on a un partenariat avec les librairies Soramps qui cette année accueille notre soirée de nuit de la lecture, puisqu'il y a l'appel à texte, mais parmi ces textes, on en sélectionne 15 qu'on va publier dans un recueil. Et parmi ces 15, on en sélectionne 9 pour qu'ils soient lus à voix haute, si possible par leurs auteurs.
Dans la librairie?
Et ça va se passer dans la librairie Soramps, le vendredi 19 janvier à 19h15, donc après la fermeture.
On pourrait presque y aller en pyjama, quoi.
Si vous voulez. En tout cas, réservez votre place. Soramps va mettre en place la billetterie, c'est gratuit, bien sûr. Mais comme le nombre de places est limité, a priori à 70 personnes, il faudra réserver en ligne. Et là, moi, ce que je trouve génial, et je suis jalouse des gens qui vont participer, parce que j'aurais voulu pouvoir faire ça, c'est que des auteurs amateurs vont venir lire leurs textes dans une librairie au milieu des livres et des libraires, parce qu'il va y avoir aussi des libraires Soramps qui vont lire des textes, alors d'auteurs connus et publiés, des textes sur le corps.
D'accord, c'est super. Donc, il faudra peut-être nous renvoyer un petit communiqué de presse pour qu'on en parle.
Avec plaisir.
Et puis, avant de se quitter, il nous reste 5 grosses minutes quand même.
Oh, on a le temps. Vite.
Ah mon Dieu, que ça passe vite.
Oh là là.
Je voudrais descendre avec vous le flyer, votre flyer, et sur tout ce que vous proposez, parce que là, on vient d'en parler de tous les côtés, mais pour que ça soit bien clair dans l'esprit de nos auditeurs. Mm-hmm. Donc, tout ce que propose Isabelle Giudicelli. Donc, d'abord, l'écriture créative.
Oui.
Ça, on en a bien parlé, mais vous pouvez compléter peut-être sur ce que ça...
Les ateliers d'écriture créative, c'est pour tout le monde, sans limitation de langue, parce qu'il y a des fois des personnes étrangères qui viennent.
Oui.
Ouais. Sans limitation, sans même quand on, il y en a qui disent mais je vous préviens, je sais pas écrire, mais c'est très bien. Et là, je lance un thème et puis tout le monde écrit et chacun lit à voix haute.
Et ça dure 1h30.
Ça dure 1h30 et je commente les textes toujours de façon constructive, bienveillante, pour encourager la créativité.
Et donc ça, il y a même une formule d'essai, un peu pour 15 euros.
Oui, oui, un atelier d'essai.
Si ça nous plaît, on s'engager pour l'année.
Bien sûr. Et on n'est pas obligé de s'engager pour l'année. Hein.
On peut faire
5 ateliers ou 10 ateliers. Parce que comme en plus, il n'y a pas de suivi, il y en a qui viennent une semaine sur deux, une fois par mois.
C'est quand on a envie de se faire plaisir et quand on a le temps.
Voilà.
Après, un labo de narration. Là, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus sur ce qu'est un labo de narration.
Alors, un labo de narration, déjà, c'est un atelier qui dure 3 heures. Et ce sont pour les personnes qui ont envie d'écrire et de perfectionner leur façon d'écrire, qui sont déjà dans une recherche sur leur écriture. Et ce sont des ateliers où j'alterne une séance sur deux. Il y a une séance qui a vraiment de la technique narrative. Qu'est-ce que c'est qu'une trame narrative? Comment on construit un personnage? Quelle est cette notion d'enjeu qui va tenir en haleine le lecteur? Il y a voilà, plusieurs choses à savoir sur la narration. Et donc, c'est des ateliers dans lesquels je décortique cet aspect technique et je donne des exercices à faire pour appliquer cette technique pour que chacun puisse toucher du doigt.
On est combien dans un labo de narration?
Un labo de narration, j'essaye de ne pas dépasser 5 personnes, des fois 6, grand maximum, mais voilà, c'est un petit comité. Et puis l'autre aspect des labos de narration, ce sont les ateliers vraiment sur le style littéraire. Et là, je mets l'accent, je lis un texte en mettant l'accent sur un aspect, un procédé d'écriture. Un texte où il y a beaucoup de négations, un texte qui est écrit au conditionnel, un texte qui est écrit très court, des micro-nouvelles, etc. On décortique un petit peu, on voit ensemble avec les participants ce qui se passe dans ces textes-là, et je leur impose. Alors autant en atelier d'écriture créative, je propose, alors chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, autant là j'impose un procédé stylistique, un procédé d'écriture. Et le temps d'écriture, il est long, il dure une heure. Et je dis toujours, même si vous avez fini au bout d'une demi-heure, continuez, parce que c'est en poussant à l'extrême un procédé d'écriture, le but n'est pas d'écrire un beau texte, mais c'est en le poussant à l'extrême qu'on peut voir des nouvelles choses qui se dessinent dans notre style littéraire qu'on va pouvoir utiliser après dans nos écrits.
Et puis vous faites aussi des stages thématiques, d'ailleurs il y en a un qui commence bientôt.
Il y en a un qui commence bientôt,
dimanche,
sur l'écriture de l'humour et de la parodie.
Voilà. Donc c'est toute une journée consacrée,
consacrée un thème, à un sujet. Donc, voilà, et vraiment de façon progressive, c'est-à-dire que le premier exercice sert un peu d'échauffement, puis peu à peu on rentre de plus en plus dans le vif du sujet. Et puis bien sûr il y a quand même un certain temps aussi pour les échanges.
Et puis le pont des auteurs qui vous tient à cœur.
Oui, le pont des auteurs, c'est une publication,
façon d'aborder,
voilà, c'est une publication en ligne où là c'est vraiment pour les gens qui peuvent pas venir en atelier ou qui vont recevoir régulièrement dans leur boîte mail des propositions d'écriture et qui vont pouvoir participer, entrer dans cette communauté de passionnés d'écriture, puisqu'il y a un compte Patreon sur lequel je publie les propositions. Et chaque participant peut échanger. Et puis, il y a des rendez-vous en visio dans le cadre du Pont des auteurs qui permet d'échanger avec la communauté.
C'est très, ça donne envie, en tout cas, ça. Ouais. Évidemment, on a déjà parlé un petit peu, mais de l'accompagnement individuel.
Oui.
Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, que le partager en atelier, au fond, ça ne vous tente pas trop, vous pouvez aussi être accompagné individuellement.
Tout à fait.
Et puis, si vous avez peut-être déjà écrit quelque chose, vous pouvez aussi proposer votre livre en lecture critique à Isabelle, qui vous en fera une lecture. Ce n'est pas bêta lecteur, c'est juste... ce n'est pas non plus correctrice, c'est quoi exactement?
Non, alors ce n'est pas correctrice, c'est une lecture dans laquelle je fais après un compte-rendu de ce que j'ai ressenti moi en tant que lectrice et des points qui me semblent importants à améliorer, alors soit pour la compréhensibilité, mais aussi pour maintenir l'intérêt du lecteur et pour que pour que ça se tienne. Et éventuellement, en fonction, si la personne a l'intention de l'envoyer à un éditeur, je vais lui donner aussi des conseils adaptés par rapport à ce que recherche un éditeur.
Et puis on va passer à ce qui est le plus important, comme il nous reste une minute, vous allez nous dire où ça se passe, parce que c'est chez des amis.
Oui. Mais oui.
Quand, où, mais comment vous contacter, quelles vos coordonnées, allez-y, dites tout.
Alors, mes ateliers se déroulent à la Gerbe à Montpellier, c'est rue Chaptal, près de la station de tramway Saint-Denis, là où nous nous sommes rencontrés, Nathalie.
dans fait une un petit coucou
salle,
à Agathe.
Voilà, et à Agathe et à Nancy. Dans une salle qui donne sur la cour, qui est un endroit vraiment très agréable et merveilleux. Vous pouvez me joindre au 06 95 71 93 08. Consultez les informations sur mon site web écrireavecig.com
et écrireavecig@gmail.com.
Ça, c'est mon adresse mail.
D'accord.
Voilà. Et puis, pour le pont des auteurs, vous allez vous chercher sur Patreon. patreon.com/pontdesauteurs, je crois que c'est ça l'adresse. Mais de toute façon, si vous allez sur mon site écrireavecig.com, vous avez toutes les infos sur tous les ateliers.
Et puis on mettra tout ça sur le podcast. Voilà, comme
ben
ça,
oui.
Voilà, on pourra partager et vous pourrez avoir toutes les belles informations. Exactement. Merci Isabelle, ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour cette belle rencontre et je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres qui viendront après.
Merci beaucoup Nathalie, à bientôt.
À très bientôt dans une autre belle rencontre. Au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.